Bonjour à tous. Donc vous écoutez l'émission Une heure en Palestine. Une heure en Palestine va être pour l'essentiel consacrée aujourd'hui à un homme, Georges Ibrahim Abdallah. On va vous expliquer pourquoi on parle de Georges Ibrahim Abdallah, mais on vous prévient tout de suite, parler de Georges Ibrahim Abdallah, c'est parler de l'état du monde. C'est parler du monde et de ses soubresauts et de ses horreurs telles qu'ils se déploient actuellement, et en particulier dans ce qu'il est commun d'appeler le Proche-Orient. Alors pour en parler, en face de moi il y a Pierre Stamboul, donc je pense que beaucoup d'auditeurs le connaissent, hein, porte-parole de l'Union juive française pour la paix, militant infatigable de la cause palestinienne, antisioniste, non pas malgré qu'il soit juif, mais antisioniste parce qu'il est juif et fier de l'être. Et moi, je suis Sarah, donc j'appartiens à ISM France et j'ai vécu à Gaza et j'étais sur la dernière flottille matérielle, si j'ose dire, celle de 2018 qui tentait de briser le blocus de Gaza par la mer. Voilà. Alors. Eh bien voilà, on va commencer comme ça, à demander à Pierre pourquoi on parle aujourd'hui de Georges Ibrahim Abdallah.
Bonjour à toutes et à tous. On parle de Georges parce qu'il a été arrêté il y a maintenant 38 ans. Donc il entre dans sa 39e année de détention dans les geôles d'un pays qui se prétend démocratique et qui prétend qu'il respecte le droit. Ce pays, c'est la France. Et dans la clôture un petit peu d'un mois de soutien à Georges, il y a eu plusieurs manifestations. Nous avons participé le 15 octobre à un festival Palestine, festival Tadamoun, tout près de Lannemezan, la prison de Georges, et qui a été un très grand succès. 500 personnes sont passées là. On a parlé évidemment de tout, des prisonniers, de la situation en Palestine, de la solidarité. Il y a eu le 21 octobre à Toulouse une soirée organisée par le collectif Palestine vaincra pour Georges, avec 120 personnes environ qui ont participé. Il y avait trois intervenantes et intervenants. Il y avait Elsa Lefort, la femme de Salah Hamouri, prisonnier franco-palestinien il en est maintenant à 10 ans de prison. Actuellement, il est en détention administrative dans les geôles israéliennes. Il y avait Khalia qui dirige en Espagne un nouveau mouvement qui s'appelle Massar Badil. Et il y avait moi-même pour parler de la complicité française, complicité éhontée avec le colonialisme israélien. Et puis il y a eu le 22 octobre la grande manifestation à Lannemezan, manifestation annuelle qui a lieu toujours le samedi de la dernière semaine d'octobre. La presse locale a parlé de plus de 1000 manifestants, ce qui est quand même une augmentation, avec une très très grande diversité, c'est-à-dire que viennent dans ces manifestations d'abord beaucoup de gens de la région Occitanie, autour de Toulouse, autour de l'Ariège, autour des Hautes-Pyrénées. Il commence à y avoir maintenant des partis politiques qui, en tant que tels, sont investis dans la défense de Georges. C'est vrai, même si c'était encore partiel. Bon, il y a l'ANC, il y avait le Parti communiste, la France insoumise. Il y a l'extrême-gauche qui est assez présente. Le NPA qui était là, d'autres groupes alternatifs libertaires. Et puis il y avait toute une myriade de mouvements de l'extrême gauche. Et tout ça, ça faisait beaucoup de monde. Ça faisait un soutien qui est assez important. Sans doute pas assez important, on vous en parlera quand on va parler de nos nombreuses rencontres avec Georges, puisque nous l'avons rencontré à plusieurs reprises dans la prison de Lannemezan. Lui-même dit que le fait qu'il sorte, ce n'est pas une question juridique, c'est une question de rapport de force. Alors probablement, nous n'avons pas encore établi le rapport de force qui fait qu'il sera libre, mais il y a une augmentation de la pression, et donc il y a l'espoir. Sarah va vous lire maintenant la déclaration de Georges, parce que systématiquement, dans les manifestations à Lannemezan, il y a une déclaration de Georges, vous allez voir en l'écoutant qui il est.
Alors, je voudrais quand même juste rajouter une petite chose. Parmi les mouvements qui soutiennent depuis peu, de manière vraiment consciente et continue, le cas de Georges, il y a les mouvements de défense des droits des Palestiniens, pour des raisons que vous allez comprendre très facilement, et il y a depuis 2 ans une intervention de la FPS, qui est un gros mouvement pro-palestinien en France, et ça, c'est extrêmement encourageant, c'est-à-dire qu'au-delà des sensibilités, des analyses, quand on s'attaque à la question de l'état du monde, forcément, on a des points de fracture, des divergences importantes ou pas importantes, mais le plus important, c'est qui se montre maintenant depuis quelques années, c'est que l'ensemble des gens de bonne volonté disent ça peut pas durer. Alors, on va revenir, pour ceux qui ne connaissent pas, sur, on vous fera un résumé qu'est-ce qui s'est passé avec Georges, mais on voulait commencer par lui donner la parole. Donc, j'ai l'honneur, je suis émue, en fait, de vous lire la déclaration qu'il a faite pour la manifestation. Voilà, écoutez bien, c'est la parole de quelqu'un qui est enfermé, strictement enfermé, depuis 38 ans et qui va démarrer sa 39e année en prison. C'est Georges qui parle. Chers camarades, chers amis, à l'aube de cette 39e année de captivité, vous savoir rassembler ici m'apporte beaucoup de force et me réchauffe le cœur aussi. Peu importe ce qu'en pensent ceux qui guettent et épient ce rassemblement, la chaleur de votre mobilisation et l'enthousiasme de votre engagement se moquent bien de ces abominables murs, de ces barbelés et autres miradors. Ils percutent la quotidienneté mortifère des cellules et nous laissent entrevoir des lueurs de victoire se dessiner à l'horizon. Camarades et amis, vos diverses initiatives solidaires que vous avez développées dans cette campagne internationale depuis un mois apportent un cinglant démenti à ceux et à celles qui misaient sur les soulèvements de votre mobilisation. Certainement, dans cette campagne internationale, Hofer et les autres geôles sionistes ont toute votre attention et tout naturellement l'expression de votre solidarité active est toujours plus vivifiante pour ceux et celles qui y sont embastillés depuis tant d'années. Chers camarades, chers amis, les contradictions inter-impérialistes occupent le devant de la scène internationale, sur fond de crise globale du système capitaliste mondialisé. Elles sont appelées à s'exacerber de plus en plus et à se propager au niveau planétaire. Et comme toujours en pareilles circonstances, la propagande impérialiste bat son plein. Il semble inutile de s'attarder longuement sur les pseudo-arguments quant aux méchants agresseurs et pauvres agressés. Seulement, camarades, ne perdons pas de vue que les guerres impérialistes et inter-impérialistes sont inscrites en quelque sorte dans le code génétique du capitalisme. C'est pourquoi, en l'espace d'un siècle, le capitalisme jette l'humanité au bord d'une guerre mondiale pour la 3e fois. La crise de ce capitalisme moribond, dans sa phase de putréfaction avancée, est la crise du capitalisme mondialisé réellement existant et son agonie ne s'achèvera que dans le dépassement vers le communisme. Camarades, certainement, il y a place pour d'autres futurs que la soumission au diktat criminel du capitalisme et à la barbarie des guerres impérialistes et inter-impérialistes. Chers camarades, chers amis, ne laissons pas la propagande impérialiste déchaînée ces jours-ci occulter ce qui se passe en Palestine au vu et au su de tout le monde. Face à l'émergence et à l'affirmation d'une nouvelle génération de résistants, tout particulièrement en Cisjordanie. La Soda Texte sioniste se livre au pire excès, tuant tous les jours des jeunes et des moins jeunes, détruisant les maisons, confisquant de nouvelles terres, sous des prétextes fallacieux, et dernièrement encerclant des villes par un blocage complet. La résistance fait face, et c'est aux hommes et aux femmes de bonne volonté d'en faire autant au niveau régional et international. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et de sa prometteuse résistance. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde. La solidarité, toute la solidarité avec les prolétaires en lutte. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à toutes celles et ceux qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, camarades, ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes plus chaleureuses salutations communistes, Georges Ibrahim Abdallah.
Vous l'aurez compris en écoutant Georges, sa détention sans fin, elle repose en gros sur trois choses dont on va essayer un petit peu de dérouler un peu. Il y a la Palestine, parce que tout son engagement dès le départ, c'est un engagement pour la Palestine, parce que la Palestine représente justement, pas seulement dans cette région du monde, mais l'ensemble des contradictions de ce monde. Il y a le communisme, la révolution, parce que Georges est un révolutionnaire, il n'a jamais cessé de l'être. Le pouvoir voudrait le faire abjurer, évidemment il n'abjurera pas, alors que s'il abjurait, bien sûr, il serait libre. Et puis il y a une incroyable machination judiciaire, accumulation de fautes impardonnables au regard du droit international, qui font que 38 ans après son arrestation, il est toujours en prison. Je vais très rapidement un peu dénouer les trois, et puis on va parler notamment de la Palestine, mais pas que. Georges, il va avoir 72 ans en avril. C'est un Libanais d'origine chrétienne du nord du Liban, et son pays très rapidement est plongé dans plusieurs guerres avec Israël, des invasions particulièrement criminelles. 1978-1982. En 82, ce sera Sabra et Shatila, après que l'OLP ait quitté le Liban. Et Georges, évidemment, fait partie de toute cette résistance. On est en pleine guerre civile libanaise, et en même temps, il y a la tentative israélienne d'occuper tout le sud Liban jusqu'à Beyrouth, d'envahir Beyrouth, et la tentative avec Israël, des impérialistes français et états-uniens, d'imposer un régime fantoche avec les phalangistes alliés des Israéliens à la tête du Liban. Georges va participer activement à ces luttes et il n'est pas d'accord avec la décision de l'OLP, encerclée à Beyrouth puis à Tripoli, de quitter le Liban pour s'établir 3000 km plus loin à Tunis. Et le groupe dont il est un des fondateurs, les fractions armées révolutionnaires libanaises, va décider de porter la guerre dans les métropoles impérialistes qui aident Israël et qui ont essayé d'imposer un régime fantoche au Liban. Et à Paris, son groupe va tuer un agent du Mossad, Igor Barsimentov, et un agent de la CIA, Charles Ray. Dans les deux cas, c'est une femme qui a tiré, et on la connaît, enfin, elle est morte il y a quelques années à Tripoli. Mais quand Georges va être arrêté, bon, on peut tout juste lui mettre sur le dos une complicité, puisqu'il appartient au groupe qui a revendiqué les attentats. Mais on va retrouver bizarrement des armes chez lui qui n'étaient pas les siennes. Et il va y avoir toute une campagne de presse mettant sur le dos de Georges des attentats qui ont été commis par des pro-iraniens, le CSPPA qui a fait des attentats, notamment celui de la rue de Rennes et du magasin Tati. et dans des circonstances assez incroyables en France, il va y avoir un procès où théoriquement il risque 7 ans, où le procureur demande 15 ans et où il est condamné à perpétuité. Il y a des anomalies totales dans cette affaire-là. Le soir du procès, l'avocat commis d'office, qui était le sien, Mazurier, dit qu'il est un agent de la DST et que tous les jours, il raconte à la DST ce que Georges lui a dit. C'est normalement des conditions pour qu'un procès soit annulé. Le procès n'est pas annulé, il n'est pas refait. Et Georges va tomber dans l'oubli. Il va tomber dans l'oubli jusqu'à 1999. Il en est à 15 ans de détention. Et il est donc libérable. Eh bien, il ne va pas être libéré. À plusieurs reprises, la Cour va prononcer sa libération. La première fois, c'est le ministre Perben qui refuse de signer le décret. La deuxième fois, on est en 2013. Le décret de libération doit être signé, puisque la Cour d'appel de Pau a prononcé sa libération. Il suffit que le ministre de l'Intérieur signe, et Georges est expulsé au Liban. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est Manuel Valls, l'ineffable Manuel Valls, celui que on le fout par la porte, il rentre par la fenêtre, et il ne va pas signer. Bien évidemment, Hillary Clinton, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a téléphoné pour qu'il n'y ait pas la libération. Mais la raison pour laquelle il n'y a pas la libération, c'est que la France est totalement solidaire d'Israël dans cette affaire-là. On est maintenant quasiment 10 ans après l'épisode Valls. Depuis, il est toujours en prison. Les nouvelles autorités de Macron multiplient les mensonges pour ne pas le libérer. Par exemple, maintenant, la dernière en date, c'est « il n'a pas indemnisé ses victimes, sa libération créerait un grave trouble à l'ordre public » ou « il n'a pas abjuré, il est toujours révolutionnaire ». Donc toutes les raisons sont données pour qu'il continue à être en prison alors que la libération, la détention perpétuelle, bien entendu, n'existe pas. Et Georges est resté, et vous le sentez évidemment dans le message que Sarah vous a lu, il est resté un communiste, il est resté un révolutionnaire. Et justement, Sarah, comme avec moi tu l'as vu à plusieurs reprises, raconte-nous un petit peu ce que Georges dit quand on le rencontre sur les luttes, sur sa vision du monde, sur les différents problèmes qu'il peut évoquer. La religion, le racisme, la lutte des classes.
Bon, je vais commencer, hein. C'est un peu vaste comme question. La première chose que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que c'est évidemment très difficile, peut-être certains d'entre vous ont vécu ça, hein, de visiter quelqu'un en prison, et puis quand c'est l'heure de fermer, hein, les matons viennent appeler en disant « allez, allez, il faut partir », et puis soit on sort, on s'en va, et l'autre, il reste en prison. C'est des choses qui sont très difficiles. Mais Georges va bien. Et il va bien parce qu'il travaille intellectuellement énormément, parce qu'il reste branché sur l'état du monde, parce que ce qui a été son engagement, donc engagement armé, engagement pour dire si ce sont les métropoles occidentales qui mettent à feu et à sang le monde, il est normal d'aller leur rappeler sur place que non, c'est pas ce monde-là que nous on veut. Il est resté donc tout à fait quelqu'un d'actif, et on peut dire hein, que sa cellule, c'est un peu comme son bureau de travail. Alors, une des choses qui m'impressionne beaucoup chez Georges, et que je crois très importante, même si peut-être aux plus jeunes d'entre vous, ça peut paraître des choses un peu archaïques, mais je crois l'exact contraire, c'est qu'il a une réflexion sur le monde, une vision du monde en termes de classe, en termes de savoir qui dirige, quels sont les intérêts qui sont en place, qu'est-ce que c'est que ce capitalisme qui mène régulièrement le monde à des faillites terribles, qu'est-ce qui est vraiment la logique des catastrophes qui frappent le monde. Quand je parle de catastrophes, je voudrais rappeler une chose. Hein. On n'a jamais autant travaillé. Hein. La productivité, dans les années 50, l'idée, c'était que si la productivité augmentait, les lendemains allaient chanter. Et la productivité a été multipliée, mais à des facteurs incroyables, sauf qu'il y a de plus en plus de famines, sauf qu'il y a des parties entières du monde qui saignent, qui meurent, alors qu'elle ne pourrait tout à fait vivre. Donc, la nature même du régime qui nous exploite, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale et la lecture du monde et des événements du monde en termes de classe, en termes de classe sociale, en termes de savoir qui est à la manœuvre, qui se bat, qui sont les résistants, d'où ils viennent, etc., est une chose très, très importante. Je crois que c'est beaucoup plus important que tout ce que peuvent baver sur nous et sur les autres, les BFM, les CNews, et même les radios soi-disant neutrales, hein, qui prennent à chaque fois les événements par le petit bout de la lorgnette. Alors c'est un tel parce qu'il était un tel, et parce que non, c'est pas ça qui se passe. Il y a un régime, une manière d'organiser le monde social qui a donné tout le pouvoir au capital. Ce capital est devenu tellement gros, tellement fou, qu'il amène, on peut imaginer comme un bateau, quoi, avec énormément d'eau dans la cale, et puis évidemment, cette eau se précipite d'un endroit à l'autre, à l'endroit où le capital peut se valoriser le plus facilement. Et c'est ce régime-là, c'est ce système-là qui fait que le monde saigne à ce point. Donc voilà, la première chose qui est importante, je pense, pour moi quand je visite Georges, c'est qu'il va toujours essayer de comprendre ce qu'il se passe en termes de ce rapport de force, en termes de ce capitalisme qu'on appelle impérialisme, c'est-à-dire qui a construit d'énormes entités qui se battent d'ailleurs entre elles. Hein. On pourrait être un peu étonné de ça. Elles se battent entre elles et pour se battre entre elles, elles utilisent les ficelles horribles sur lesquelles le monde a déjà tellement souffert. Le nationalisme imbécile, le racisme absolu, l'idée qu'il y a... vous savez, vous connaissez cette phrase vérité à côté des Pyrénées, erreur en deçà, enfin cette idée que il y a des parties du monde qui portent des valeurs. Quelle partie du monde? Qui dans ces parties du monde? Qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Et que d'autres, évidemment, seraient intrinsèquement dangereuses. Les Asiatiques, par exemple, pour faire simple. Et puis, évidemment, le bloc arabe, ah là là, etc. Donc voilà, la première chose qui m'a frappée chez Georges, c'est sa capacité à essayer de comprendre les événements en essayant de trouver la racine de la compréhension de ce qui se passe. Et puis, je renvoie sur Pierre pour le deuxième sujet dont il parlait.
On va faire une petite pause musicale.
Alors, donc, je reprends la parole. Ce que vous allez entendre là, c'est une chanson magnifique qui a été créée par une artiste de Bordeaux. Son nom d'artiste, c'est M. Mais je peux vous dire qu'elle s'appelle Myriam. Et donc, ça a été enregistré à l'arrache dans une manifestation d'il y a quelques années. Voilà, écoutez bien, c'est magnifique.
Française, y avait un prisonnier, plus de 30 ans, à Dieu ne plaise, derrière des barreaux enfermés. C'est une zone de non-droit, un lieu qu'un seul homme parcourt. Bien plus qu'une cage, un endroit où le temps a fini son cours. Qui me dira, qui me dira, qui me dira. Je n'aurai plus que Georges Ibrahim. Qui me dira, qui me dira. Quand je ne chanterai plus pour Georges Lala. Que devient l'homme entre les murs? Rêve-t-il de cobayas? Sent-il le vent comme un murmure? sur la plaine de la Beka. Voit-il au-delà du grillage Beyrouth la belle dans l'effroi? Pleure-t-il de tristesse et de rage sur les cendres de Shatila?
Qui me le dira, qui me le dira, qui me le dira?
Quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim,
qui me le dira, qui me le dira, qui me le dira?
Quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah, l'homme est là et toujours se dresse, l'homme est là et toujours se bat. La liberté n'a pas de laisse, la lumière ne vient pas d'en bas. Quand la dictature le retient et fait la guerre au monde entier, même enfermé, il se souvient d'un drapeau rouge en poignée. Qui me dira,
qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah?
Vous qui voyez le temps qui file aux fenêtres des jours perdus, songez aux longues heures fébriles, songez aux allées venues. Quand se pavane l'injustice et lorsque vos yeux se détournent, c'est bien un jour de plus qui glisse dans ce cachot où l'homme tourne. Qui me dira,
qui me dira, qui me dira, quand je chanterai pour Georges Ibrahim?
Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Qu'on lui ouvre grandes les portes, qu'il revienne à nous triomphant, que nos chants de victoire le portent au pied des cèdres du Liban. Dans les vieilles geôles françaises, y avait un prisonnier, plus de 30 ans à Dieu ne plaise, derrière des barreaux enfermés. Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah?
Très belle chanson de Myriam. Je vais aborder la question de la Palestine, parce que quand on rencontre Georges, très rapidement, les discussions viennent là-dessus. Souvent, d'ailleurs, il nous demande des nouvelles de Gaza, parce qu'il sait qu'on y a été. Quelque part, la Palestine, c'est le combat emblématique aujourd'hui pour tout le monde, parce que ce qui se joue en Palestine, c'est quelle humanité nous voulons et quelle humanité nous ne voulons pas. Souvent, on dit cette guerre, elle est compliquée. Non, elle n'est pas compliquée. Il y a un occupant, il y a un occupé. Il y a un peuple qui a été victime, il y a maintenant 74 ans, d'un nettoyage ethnique totalement prémédité. Ceux qui ont nié la préméditation, les historiens, en sortant les archives, ont montré que cette préméditation était indiscutable. Que le nettoyage ethnique des Palestiniens s'est accompagné dès 1948 d'un assez grand nombre de crimes de guerre qui sortent en ce moment, après avoir été longuement niés. Il y a eu Deir Yassine, crime de guerre bien connu, mais maintenant il y a le massacre de la Tentoura. Et aujourd'hui, on a Amnesty International qui, après bien d'autres associations palestinienne, israélienne, internationale, dit que l'État d'Israël est un État d'apartheid. Cet apartheid, il était en germe dès 1948. Les sionistes ont inventé un conte de fées que les Juifs rentraient chez eux après 2000 ans d'exil. Ils niaient directement dans cette conception l'existence, la dignité et les droits du peuple autochtone, qui était le peuple palestinien. Et ils ont réalisé, je vais volontairement utiliser les paroles d'un fasciste célèbre, ils vont réaliser un grand remplacement, c'est-à-dire qu'ils ont expulsé 80 à 90% d'une population pour la remplacer par une population venue d'Europe. Bien entendu, beaucoup de Juifs avaient été persécutés, ne savaient pas où aller. Et nous distinguons complètement dans ce que nous disons les Juifs qui ne savaient pas où aller et le projet sioniste qui était dès le départ d'expulser le peuple palestinien. Les Palestiniens d'Israël ont subi des discriminations sans arrêt, le couvre-feu, le massacre de Kfar Qassem, la confiscation des terres qui a donné la journée de la terre. Et les sionistes ont conquis en 1967 la totalité de la Palestine. Il y a aujourd'hui très clairement une situation d'apartheid. On a 50% de la population juive israélienne qui dispose de tous les droits, de tous les avantages politiques, économiques, du pouvoir militaire. Et il y a une population qui n'a rien, qui se fait voler en permanence sa terre, détruire ses oliviers, détruire ses maisons et emprisonner en masse, puisque 850 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967. Il faut réaliser aujourd'hui que si on prend les hommes palestiniens entre 18 et 50 ans, 40% d'entre eux ont connu la prison. Georges Abdallah, il a compris d'entrée, parce qu'il était dans un pays voisin, le Liban, que la question et la cause palestinienne, c'était une cause centrale, qu'en même temps, la question palestinienne était indissolublement liée à la question de la révolution pour laquelle il se bat. Et il a donc immédiatement été dans le groupe palestinien le plus radical de l'époque, qui était le FPLP. Mais en même temps, je vous l'ai dit, il a désapprouvé la décision que l'OLP quitte le Liban pour aller s'installer en Tunisie. Aujourd'hui, ce qui arrive, et on va tout à l'heure parler de la situation en Palestine, donne totalement raison à la lutte de Georges. On est arrivé à un point où Israël est dominé par des suprémacistes, par des racistes, par des gens qui n'ont pas la moindre conscience morale. Aujourd'hui, en Palestine, le pouvoir sioniste, l'armée et les colons tuent tous les jours. Ils tuent des enfants. Chaque jour, ce sont des enfants, souvent très très jeunes, qui sont assassinés. Ils emprisonnent en masse, ils détruisent les maisons, ils arrachent les oliviers, ils essaient de détruire, on en a parlé dans des émissions sur Gaza, tout ce qui pourrait permettre aux Palestiniens de faire société et de produire. Quand Gaza est bombardé, on bombarde en priorité la station d'épuration des eaux et la centrale électrique. Et voilà, je voulais dire que Georges et la Palestine, ce sont deux causes qui sont complètement identiques. Peut-être Sarah, tu veux rajouter des choses sur là-dessus.
Alors, je voudrais rajouter une chose. Je ne sais pas du tout, peut-être vous, auditeurs, ça vous pose peu de questions, mais c'est une question qu'on me pose souvent. C'est une question qui, pour moi, est tout à fait fondamentale. C'est qu'est-ce que c'est qu'un résistant et qu'est-ce que c'est qu'un terroriste ? Georges, il a refusé de désavouer l'assassinat de deux membres d'organisations particulièrement nocives et qui ont mis la terre de Palestine à feu et à sang, mais il a refusé en disant « ça, c'est notre droit de résister ». Avait-il raison ? Je crois qu'il avait complètement raison. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre. C'est que lorsqu'on est face à une agression intolérable, et la Palestine, c'est une agression vitale, c'est « nez nettoyer les stiques, pousse-toi de Lakshmi Mett, si tu pars pas assez vite, je te tue, et de toute façon, cette terre est à moi ». Donc on peut pas faire plus brutal. Et bien, face à une agression brutale, toutes les formes de résistance sont légitimes. On ne peut pas dire « oh, il faut résister comme ça ou pas comme ça ». Et je voudrais rappeler aux auditeurs, on est fiers en France, hein, de la résistance au nazisme, et on a des raisons d'être d'être fier. Alors, il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas été résistant et que la résistance au nazisme, si elle a été très importante et finalement victorieuse, elle n'a pas été la seule expression française, hein, loin de là. Mais on est fier de notre résistance, on est content, on est ému lorsqu'on voit les images des maquisards avec ces vieux... ces fusils avec... Eh ben oui. Les maquis, c'était de la lutte armée. Et c'est grâce à cette lutte armée qu'une partie de la libération du territoire français a pu se faire. Donc voilà, il faut bien tenir en tête l'idée que la fracture, elle n'est pas dans les formes de résistance. Elle est entre résistance et collaboration. Et voilà. Après, c'est aux personnes qui sont sous le feu, de décider comment ils vont combattre. Alors, elle n'est pas non plus la résistance armée, la chose la plus noble, et puis le reste serait un petit peu gnangnang, un petit peu mou. Pas du tout. Toutes les formes de résistance ont la même légitimité et ont droit aux mêmes honneurs. La maman qui continue à envoyer ses gosses à l'école, malgré le blocus à Gaza, malgré l'avenir totalement bouché, et qui dit au moins il faut se développer, il faut connaître, il faut la connaissance, on ne pourra pas vous la retirer de la tête. Cette maman, elle fait de la résistance, et une résistance magnifique. Toutes les formes, les jeunes qui passent leur temps à essayer avec leur blog, avec un petit téléphone, de donner l'information sur ce qui se passe, ils font de la résistance. Donc voilà, il n'y a pas une résistance noble qui serait la résistance armée et les autres résistances qui seraient un peu molles, pas du tout, mais il n'y a pas non plus à jeter le discrédit sur la résistance armée et à confondre ce que sont des résistants et ce que sont des terroristes. Et je voudrais donner une chose personnelle. Je suis fille de résistants. Et je crois que j'ai toujours su, même déjà petite fille, qu'on disait de mon FTP, hein, franc-tireur et partisan, de mon FTP de père résistant, parce que la résistance avait gagné. Mais que si la résistance avait été battue, il aurait été un terroriste. Et quand vous entendez le mot terrorisme, pensez toujours à la fiche rouge. Hein. Le groupe Manoukian a été un groupe d'un courage fabuleux qui a mené la lutte armée sur le territoire français, qui est en particulier à Paris, mais pas que. Voilà, quand finalement les nazis arrivent à le démanteler, qu'ils vont être fusillés, une affiche est apposée sur tous les murs de Paris avec des images des attentats montrées de manière horrible, hein, et en disant des libérateurs, point d'interrogation, la libération par le crime, point d'exclamation. Eh bien oui, il y a des cas, il y a des situations, et en particulier les situations d'attaque sur son propre territoire, les situations de colonisation, où effectivement il n'y a pas d'autre voie que la résistance armée. La résistance armée est une des voies possibles, et je terminerai en rappelant ce qu'a écrit Mandela, qui me paraît tellement important, et qui est de dire c'est pas le résistant qui choisit la forme de lutte, c'est pas le peuple en résistance qui choisit les formes de lutte, c'est l'agresseur, c'est l'occupant qui impose les formes de lutte.
Mandela avait aussi dit que l'Afrique du Sud ne serait jamais libre tant que la Palestine ne le serait pas. On va faire un deuxième moment musical, et justement je vous parlerai de, entre guillemets, le terrorisme en Palestine.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir,
tu mi devi seppellir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sua montagna, con l'ombra di un bel.
comprenez que si on a tenu à passer Bella Ciao, qu'on n'a pas besoin de vous présenter, c'est à la fois pour deux choses. C'est, bon, d'une part, 100 ans après la marche sur Rome, les Italiens portent au pouvoir les héritiers de Mussolini. Donc il y a peut-être des gens qui n'ont pas de mémoire, mais nous, on en a une. Donc on dit attention, et puis attention que la prochaine étape ne soit pas chez nous non plus. Et donc, antifascistes, nous avons toujours été, antifascistes, nous serons toujours. Et en même temps, Bella Ciao, c'est une superbe chanson de résistance. Et ça veut dire que même dans le pays qui avait inventé le fascisme, il y a eu une résistance qui a fini par l'abattre. Et donc, c'est évidemment ce que nous souhaitons. En même temps, c'est un rappel aussi pour les amnésiques historiques. Ceux qui sont au pouvoir en Israël, j'en parlerai tout à l'heure sur les prochaines élections israéliennes, leurs ancêtres politiques, le Bétar, faisaient des entraînements armés dans l'Italie fasciste. Donc, il soit bien clair que ces dirigeants-là sont du côté des oppresseurs et pas du côté des résistants. On va parler de la Palestine parce qu'il se passe en ce moment des événements assez terribles. Il y a à la fois un désespoir qui est assez évident, une absence de perspective politique assez évidente et en même temps une répression qui est passée au mode supérieur. Le désespoir, c'est parce que ce qui reste de la Palestine, on va surtout parler de la Cisjordanie, se réduit en une série de bantoustans complètement éclatés. Actuellement, la Palestine est bouclée, le camp de Choufat est bouclé, la ville de Naplouse est bouclée, la ville de Jenin est bouclée. Très régulièrement, les Israéliens font des descentes. Alors Sarah vous parlera tout à l'heure de Jenin parce qu'elle y a vécu. Mais il naît en ce moment en Palestine des mouvements de résistance qui portent différents noms. Il y a la Tanière des Lions, notamment à Naplouse. Et ces mouvements de jeunes prônent la lutte armée. Ils prônent le fait de se défendre quoi qu'il arrive devant l'oppression et le bouclage. Il y a leur... Ouday Tamimi a tué une soldate israélienne sur un checkpoint. Puis il a pris le maquis. Il est mort les armes à la main quelques semaines plus tard. Et il y a eu près de 100 000 personnes aux obsèques de 5 résistants, dont lui-même à Naplouse. C'est ça la situation actuelle de la Palestine. Et ça se passe dans un moment de désespoir, parce qu'il y a une désunion palestinienne qui est une victoire de l'occupant. Il y a une autorité palestinienne qui est de plus en plus unanimement considérée comme une autorité collabo, parce qu'elle arrête des résistants, elle essaie de les empêcher de résister ou de les emprisonner, parce qu'elle-même, elle a tué, on pense à Nizar Banat, qui a été tué par la police palestinienne l'an dernier. Et du fait de ce désespoir aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui ne fait plus confiance dans les partis politiques, qui prend en charge elle-même la lutte, qui n'a pas de perspective immédiate autre que dire 7 millions de Palestiniens vivent entre Méditerranée et Jourdain, ils ont des droits et ils ne vont pas se laisser enfermer et tuer. J'ajoute, juste avant qu'on vous parle de Jenin, il y a eu une réunion à Alger de 14 partis politiques palestiniens. Ils ont signé un accord, mais franchement, pour avoir discuté avec tous les partis politiques palestiniens quand nous étions à Gaza en 2016, on ne croit pas plus en cet accord qu'en tous les précédents. Les raisons de la désunion palestinienne sont toujours énormes. Et encore une fois, c'est une victoire de l'occupant. Sarah, peut-être tu nous parles de Jenin.
Alors peut-être un mot sur Jenin, un peu rapidement si on veut dire tout ce qu'on a à dire. Jenin, il faut voir, faut imaginer, hein, c'est tout à fait au nord de la Cisjordanie, ce sont les collines, hein, c'est très beau, C'est extrêmement beau, des collines un peu rases avec la pierre blanche et puis les oliviers et puis toutes sortes de plantes aromatiques qui poussent. Ça pourrait être totalement magnifique. Jenin, c'est une petite ville, un tout petit bourg. Et puis, à quelques centaines de mètres, peut-être un kilomètre de là, du bourg, il y a un grand, grand camp de réfugiés. Ce camp de réfugiés a été peuplé, si j'ose dire, au moment du nettoyage ethnique. Et la plupart des gens qui se sont réfugiés là-dedans ont très longtemps pas eu de papier du tout. On ne savait pas ce qu'ils étaient, etc. Puis ils ont eu des papiers jordaniens, et puis, enfin, voilà. Donc, des gens qu'on a essayé complètement de, non seulement une fois qu'on les a chassés de leur terre, mais de ne pas les laisser se réenraciner. Or, ils se sont réenracinés. Le camp a une vie sociale très importante, et ce camp abrite le Théâtre de la Liberté. Théâtre très, très important, et ça aussi, j'appelle les auditeurs à aller regarder. Ils ont travaillé fabuleusement, ils ont monté des spectacles incroyables et ils font travailler ensemble les jeunes du camp pour ceux qui ont un peu la fibre, apprendre ce que c'est que le théâtre, ce que c'est que de monter une pièce. Enfin, il y a une vie dans le camp qui est très, très intéressante, et une entraide. Et or, ce camp, il a été d'abord, probablement, certains d'entre vous s'en souviennent, quasiment totalement écrabouillé sous les chenilles des chars israéliens en 2002, hein, avec les chars qui ont ouvert les routes et roulé sur les maisons, et enfin voilà. Et depuis, ce camp est l'objet d'une vengeance, ou je ne sais pas comment il faut dire, mais d'un comportement de l'armée israélienne invraisemblable, avec quelquefois, il y a un mois de calme, il y avait un mois de calme, maintenant il n'y a plus du tout, et puis tout d'un coup, de nuit, l'armée israélienne va descendre, elle va investir le camp, elle va essayer de récupérer des jeunes ados, enfin voilà, on meurt à Jenin, on meurt dans le camp de réfugiés de Jenin, de manière répétée. Alors évidemment, vous le savez pas. Vous le savez pas parce que ça n'apparaît nulle part. Si un soldat israélien est blessé, voire tué, alors toute la presse internationale va en parler. Mais ce fait-là arrive après que des dizaines de jeunes aient été chopés de nuit, coursés, blessés, tués, répétitivement pendant des années. Alors vous... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire face à une chose comme ça? On ne peut que se révolter.
On va terminer, il nous reste 9 minutes, sur Israël. Les gens peuvent se poser la question, est-ce qu'il se passe quelque chose d'important, d'utile dans ce pays? Hélas, non. Je dirais, c'est Michel Warchavski qui disait cette chose-là, est-ce qu'on a déjà vu... des privilégiés renoncer de leur plein gré à leurs privilèges? Non, il se passera des choses en Israël importantes le jour où, grâce au boycott des investissements sanctions, grâce à notre solidarité, nous aurons obligé nos dirigeants à sanctionner cet État. Je vais parler des prochaines élections parce que, voilà, dans 8 jours, on va voter. On connaît déjà le vainqueur, c'est l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est deux coalitions d'extrême droite qui s'affrontent. Vous imaginez un petit peu s'il y avait un second tour en France entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est à peu près la situation que vous avez en Israël. Alors je ne peux même pas dire à ma droite, à ma gauche, donc je vais les décrire les uns et les autres. Celui qu'on donne pour l'instant légèrement vainqueur, ce serait le revenant, malgré toutes les casseroles qu'il a, c'est Netanyahou. Netanyahou... il y a quelques années, qui expliquait Hitler ne voulait pas tuer les Juifs, c'est le grand moufti de Jérusalem qui lui a soufflé l'idée. Donc on voit qu'on a pas seulement quelqu'un d'extrême droite, mais un négationniste des Palestiniens et négationniste de l'histoire du génocide juif. Et il s'est allié avec des gens qui étaient interdits il y a quelques années parce que fascistes. Ce sont les héritiers du parti Kach, du rabbin Meir Kahane. Ce parti avait été interdit pour terrorisme en Israël. Or, aujourd'hui, ses héritiers sont donnés avec 12 députés pour le parti de Ben-Gvir et 6 ou 7 pour le parti de Smotrich. Alors, Smotrich, c'est le grand copain de Meir Habib, notre député, n'est-ce pas ? Et Ben-Gvir, c'est quelqu'un qu'on a vu récemment avec un revolver dans le quartier de Jérusalem qui s'appelle Sheikh Jarrah, où on détruit les maisons. Ben-Gvir, il a des idées simples et un sondage d'opinion a testé les idées de Ben-Gvir auprès des Israéliens. Le résultat est sans problème. 64% des sondés ont déclaré qu'ils étaient pour l'expulsion des Palestiniens, jusque-là c'est pas un scoop, et pour l'expulsion des Juifs déloyaux. Ça c'est un scoop parce que jusqu'à présent, Israël n'était pas allé sur ce terrain-là. Et en même temps, le même sondage disait qu'il ne restait plus que 11% de la population juive israélienne qui se définissait comme de gauche. Et le de gauche mérite d'être interrogé, puisque la dirigeante du Parti travailliste, Merav Mishaeli, a déclaré au moment du dernier massacre en août dernier à Gaza, vous savez, ce massacre préventif où on a tué 49 personnes pour que préventivement le djihad islamique n'attaque pas. Donc on a tué ses dirigeants et on a tué un très grand nombre de civils. Merav Mishaeli, femme de gauche, a expliqué que où qu'ils se trouvent, les gens du djihad islamique devaient être anéantis. Et face donc à la coalition donnée légèrement gagnante, celle de Netanyahou, on a une autre coalition, alors qui est menée par un centriste, entre guillemets, qui est Yair Lapid, mais c'est quand même l'homme qui, aujourd'hui, sous le gouvernement duquel, tous les jours, il y a un enfant de 14 ans qui est tué, ou tous les jours, des colons appuyés par l'armée attaquent. Lui, Yair Lapid, il a de grands alliés. Il a comme allié l'ancien Premier ministre avec qui il s'est partagé le pouvoir, qui est Naftali Bennett. Naftali Bennett disait en 2013 « Oui, j'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie, je ne vois pas où est le problème. » Imaginez juste deux secondes qu'un dirigeant mondial dise « J'ai tué beaucoup de Juifs dans ma vie, je ne vois pas où est le problème. » Et toujours dans avec les alliés de Yair Lapid, il y a Ayelet Shaked, qui a été ministre de la Justice et maintenant de l'Intérieur, et qui expliquait que les femmes palestiniennes devaient être tuées parce qu'elles élevaient des serpents et qu'il fallait les tuer avant qu'elles puissent mettre au monde les serpents. On imagine là encore que même Darmanin n'ose pas tout à fait dire ça encore, peut-être ça viendra. Et puis toujours dans les alliés de Yair Lapid, on a Benny Gantz. Benny Gantz qui est ancien chef d'état-major, qui était le chef d'état-major au moment de Bordure protectrice, vous savez, le dernier grand massacre commis par les centristes, donc en 2014 contre Gaza, 2400 morts, Bordure protectrice. Et à ce moment-là, Benny Gantz avait expliqué qu'il fallait ramener Gaza à l'âge de pierre. On voit les humanistes démocrates qui sont avec Yair Lapid. Et c'est Benny Gantz qui est à la manœuvre aujourd'hui contre les groupes armés à Jenin et à Naplouse, et dans un pays qui théoriquement a interdit la peine de mort, Benny Gantz a expliqué qu'il fallait tous les éliminer avant qu'ils puissent passer à l'attaque. Donc on est aujourd'hui à Naplouse ou à Jenin dans des phases d'élimination extrajudiciaire physique de personnes qui ont été désignées par l'armée. Donc voilà, je ne nie pas qu'en Israël tout le monde n'est pas comme ça. Il reste de très courageux militants anticolonialistes. Il reste de très courageux journalistes, je pense en particulier à Amir Haas et à Gideon Levy, qui l'un et l'autre ont sorti des articles magnifiques sur la situation actuelle. Mais le pays, globalement, va avoir une opposition entre extrême droite et extrême droite. Et on ne voit pas, dans les conditions actuelles, comment ça pourra changer. Et encore une fois, ça ne pourra pas changer tant qu'il n'y a pas des sanctions internationales. On est loin des sanctions internationales. L'Europe est complètement complice d'Israël. On vient d'apprendre, ça date d'aujourd'hui, qu'un des dirigeants du mouvement Massar Badil, qui est arrivé pour la manifestation de Bruxelles qui aura lieu samedi, a été interdit d'atterrir aux Pays-Bas. Et l'Union européenne vient de raviver ses accords avec Israël, des accords qui théoriquement étaient prévus pour être des accords bipartites après les accords d'Oslo, mais qui aujourd'hui sont des accords qui permettent aux produits israéliens d'arriver dans nos assiettes sans taxes. Je vais m'arrêter, Sarah, si tu veux conclure.
Non, conclure ce serait difficile. Je voudrais juste rappeler ce qu'est une des phrases qu'utilise Georges dans son message à la manifestation de la semaine dernière. Il dit « tous ensemble, c'est tous ensemble ». Et je crois que c'est hyper important de comprendre que toutes les modes de division, le racisme, l'idée que intrinsèquement certains, de par leurs origines, sont tentés par ceci ou par cela, au lieu de comprendre quels sont réellement ceux qui nous écrasent, ça explique largement le fait qu'on n'a pas encore les forces d'imposer un monde plus juste. Donc voilà, comprendre, se battre à fond contre le racisme, se battre à fond contre les idées trop simples, trop sottes, trop sur le monde, comprendre ce qui se passe et s'engager. Voilà.
Voilà, on va s'arrêter là. J'ajouterais juste que on aime beaucoup Georges, il nous aime beaucoup, et quelque part, l'existence de juifs antisionistes, c'est utile. Mmh.